Astyage, ayant ainsi parlé, renvoya Cyrus en Perse. Camys et Mandane, ayant appris ce qu'il était, le reçurent et l'embrassèrent comme cet enfant qu'il avait cru mort en naissant. Ils lui demandèrent comment il avait été conservé. Cyrus leur répondit que jusqu'alors il l'avait ignoré et qu'à cet égard il avait été dans une très grande erreur. Qu'en chemin, il avait été instruit de ses malheurs. Qu'il s'était cru fils du bouvier d'Astyage, mais que, depuis son départ, il avait tout appris de ses conducteurs. Il leur conta comment il avait été nourri par Sino, la femme du bouvier, dont il ne cessait de louer et de répéter le nom. Son père et sa mère, se servant de ce nom pour persuader aux Perses que leur fils avait été conservé par une permission particulière des dieux, publièrent partout que Cyrus ayant été exposé dans un lieu désert, une chienne l'avait nourri. Voilà ce qui donna lieu au bruit qui courut. Cyrus, étant parvenu à l'âge viril, comme il était le plus brave et le plus aimable des jeunes gens de son âge, Harpage, qui désirait ardemment se venger d'Astyage, lui envoyait des présents et le pressait de le seconder. Étant d'une condition privée, il ne voyait pas qu'il lui fût possible de se venger par lui-même de ce prince. Mais ayant observé que Cyrus, en croissant, lui donnait l'espoir de la vengeance, et venant à comparer les aventures de ce prince et ses malheurs avec les siens, il s'attacha à lui et se l'associa. Il avait déjà pris quelques mesures, et il avait su profiter des traitements trop rigoureux que le roi faisait aux Mèdes pour s'insinuer dans l'esprit des grands et leur persuader d'ôter la couronne à Astyage et de la mettre sur la tête de Cyrus. Cette trame ourdie, et tout étant prêt, Harpage voulut découvrir à Cyrus son projet. Mais comme ce prince était en Perse et que les chemins étaient gardés, il ne put trouver pour lui en faire part d'autre expédient que celui-ci. S'étant fait apporter un lièvre, il ouvrit le ventre de cet animal d'une manière adroite et sans en arracher le poil. Et dans l'état où il était, il y mit une lettre où il avait écrit ce qu'il avait jugé à propos. L'ayant ensuite recousu, il le remit à celui de ses domestiques en qui il avait le plus de confiance, avec un filet, comme s'il eût été un chasseur, et lui ordonna de vive voix de le porter en Perse à Cyrus, et de lui dire, en le lui présentant, de l'ouvrir lui-même et sans témoin. Le domestique ayant exécuté ses ordres, Cyrus ouvrit le lièvre, et, y ayant trouvé une lettre, il la lut. Elle était conçue en ces termes. « Fils de Camys, les dieux veillent sur vous. Autrement, vous ne seriez jamais parvenu à un si haut degré de fortune. Vengez-vous d'Astyage, votre meurtrier. Il a tout fait pour vous ôter la vie. Si vous vivez, c'est aux dieux et à moi que vous le devez. Vous avez sans doute appris il y a longtemps tout ce qu'il a fait pour vous perdre, et ce que j'ai souffert moi-même pour vous avoir remis à Mithridate au lieu de vous faire mourir. Si vous voulez suivre aujourd'hui mes conseils, tous les états d'Astyage seront à vous. Portez les Perses à secouer le joug. Venez à leur tête attaquer les Mèdes. L'entreprise vous réussira. Soit qu'Astyage me donne le commandement des troupes qu'il enverra contre vous, soit qu'il le confie à quelque autre des plus distingués d'entre les Mèdes. Les principaux de la nation seront les premiers à l'abandonner. Ils se joindront à vous et feront les plus grands efforts pour détruire sa puissance. Tout est ici disposé pour l'exécution. Faites donc ce que je vous demande et faites-le sans différer. » Cyrus, ayant lu cette lettre, ne songea plus qu'à chercher les moyens les plus sages pour engager les Perses à se révolter. Après y avoir bien réfléchi, voici ce qu'il imagina de plus expédient, et il s'y tint. Il écrivit une lettre conforme à ses vues, l'ouvrit dans l'assemblée des Perses et leur en fit la lecture. Elle portait qu'Astyage le déclarait leur gouverneur. « Maintenant donc, leur dit-il, je vous commande de vous rendre tous ici chacun avec une faux. » Tels furent les ordres de Cyrus. Les tribus qui composent la nation perse sont en grand nombre. Cyrus en convoqua quelques-unes et les porta à se soulever contre les Mèdes. Ce sont celles qui ont le plus d'influence sur tous les autres Perses, à savoir les Passargades, les Maraphiens et les Maspiens. Les Passargades sont les plus illustres. Les Achéménides, d'où descendent les rois de Perse, en sont une branche. Les Pantialéens, les Dérusiens, les Germaniens sont tous laboureurs. Les autres, savoir les Dains, les Mardes, les Dropiques et les Sagartiens, sont nomades et ne s'occupent que de leurs troupeaux. Lorsqu'ils se furent tous présentés armés de faux, Cyrus, leur montrant un certain canton de la Perse d'environ 18 à 20 stades, entièrement couvert de ronces et d'épines, leur commanda de les sarter tout entier en un jour. Ce travail achevé, il leur ordonna de se baigner le lendemain et de se rendre ensuite auprès de lui. Cependant, ayant fait mener au même endroit tous les troupeaux de son père, tant de chèvres que de moutons et de bœufs, il les fit tuer et apprêter. Outre cela, il fit apporter du vin et les mets les plus exquis pour régaler l'armée. Le lendemain, les Perses étant arrivés, il les fit asseoir sur l'herbe et leur donna un grand festin. Le repas fini, Le repas fini, Cyrus leur demanda à laquelle de ces deux conditions leur paraissait préférable, la présente ou celle de la veille. Ils s'écrièrent qu'il y avait une grande différence entre l'une et l'autre, que le jour précédent ils avaient éprouvé mille peines, au lieu qu'actuellement ils goûtaient toutes sortes de biens et de douceurs. Cyrus saisit cette réponse pour leur découvrir ses projets. Perse, leur dit-il, tel est maintenant l'état de vos affaires. Si vous voulez m'obéir, vous jouirez de ces biens et d'une infinité d'autres encore sans être exposé à des travaux serviles. Si au contraire vous ne voulez pas suivre mes conseils, vous ne devez attendre que des peines sans nombre et pareilles à celles qui vous souffrit hier. Devenez donc libre en m'obéissant, car il semble que je sois né par un effet particulier de la bonté des dieux pour vous faire jouir de ces avantages. Et d'ailleurs, je ne vous crois nullement inférieur au maître, soit dans ce qui concerne la guerre, soit en toute autre chose. Secouez donc ou plutôt le joug sous lequel Astyage vous tient asservi. Les Perses, qui, depuis longtemps, étaient indignés de se voir assujettis aux Mèdes, ayant trouvé un chef, saisirent avec plaisir l'occasion de se mettre en liberté. Astyage, ayant une connaissance des menées de Cyrus, le manda auprès de lui par un express. Cyrus commanda au porteur de cet ordre de lui dire qu'il irait le trouver plus tôt qu'il ne le souhaitait. Sur cette réponse, Astyage fut prendre les armes à tous les Mèdes. Et comme si les dieux lui eussent sauté le jugement, il donna le commandement de son armée à Harpage, ne se souvenant plus de la manière dont il l'avait traité. Les Mèdes s'étant mis en campagne, en vinrent aux mains avec les Perses. Tous ceux à qui Harpage n'avait point fait part de ses projets se battirent avec courage. Quant aux autres, il y en eut une partie qui passa d'elle-même du côté des Perses. Mais le plus grand nombre se comporta lâchement de dessein prémédité. Astyage n'est pas plutôt appris la déroute honteuse des Mèdes et que son armée était entièrement dissipée, qu'il s'emporta en menace contre Cyrus. « Non, dit-il, Cyrus n'aura pas sujet de s'en réjouir. » Il n'en dit pas davantage. Mais il commença par faire mettre en croix les mages, interprètes des songes qui lui avaient conseillé de laisser partir Cyrus. Il fit ensuite prendre des armes à ceux qui restaient de maîtres dans la ville, jeunes et vieux, les mena contre les Perses et leur livra bataille. Il la perdit, avec la plus grande partie de ses troupes, et tomba lui-même entre les mains des ennemis. Harpage, charmé de le voir dans les fers, se présenta devant lui, l'insulta, et, entre autres reproches, lui ayant rappelé ce repas où il avait fait servir la chair de son fils, il lui demanda quel goût il trouvait à l'esclavage qui en était une suite et s'il le préférait à une couronne. Astyage lui demanda à son tour s'il s'attribuait l'entreprise de Cyrus. Harpage reprit qu'il le pouvait avec justice puisque c'était lui qui l'avait préparé en écrivant à ce prince. Astyage lui fit voir qu'il était le plus inconséquent et le plus injuste de tous les hommes. Le plus inconséquent, puisque, pouvant se faire roi, si du moins il était l'auteur de la révolte actuelle, il avait mis la couronne sur la tête d'un autre. Et le plus injuste, puisque, pour le repas dont il s'agissait, il avait réduit les Mèdes en servitude. En effet, s'il était absolument nécessaire de donner la couronne à un autre, et s'il ne voulait pas la garder pour lui-même, il lui était plus juste de la mettre sur la tête d'un Mède que sur celle d'un Perse. Qu'enfin, il avait donné des fers à sa patrie, quoiqu'elle ne fût point coupable, et qu'il avait rendu les Perses maîtres des Mèdes, eux qui en avaient été les esclaves. Astyage perdit ainsi la couronne après un règne de 35 ans. Les Mèdes, qui avaient possédé 128 ans l'empire de la Haute-Asie jusqu'au fleuve Halys, sans cependant y comprendre le temps qui régnèrent les Scythes, passèrent sous le joug des Perses à cause de l'inhumanité de ce prince. Il est vrai que, s'en étant repenti par la suite, ils le secouèrent sous Darius. Mais, ayant été vaincus dans un combat, ils furent de nouveau subjugués. Cyrus et les Perses, s'étant alors soulevés contre les Mèdes sous le règne d'Astyage, furent dès lors maîtres de l'Asie. Quant à Astyage, Cyrus le retint près de lui jusqu'à sa mort et ne lui fit point d'autre mal. Telles furent la descendance de Cyrus, son éducation et la manière dont il monta sur le trône. Il battit dans la suite Crésus qui lui avait fait le premier une guerre injuste, comme je l'ai déjà dit, et par la défaite de ce prince, il devint maître de toute l'Asie. Voici les coutumes qu'observent, à ma connaissance, les Perses. Leur usage n'est pas d'élever aux dieux des statues, des temples, des autels. Ils traitent au contraire d'insensés ceux qui le font. C'est à mon avis parce qu'ils ne croient pas, comme les Grecs, que les dieux aient une forme humaine. Ils ont coutume de sacrifier à Jupiter sur le sommet des plus hautes montagnes et donnent le nom de Jupiter à toute la circonférence du ciel. Ils font encore des sacrifices au soleil, à la lune, à la terre, au feu, à l'eau et au vent, et n'en offrent de tout temps qu'à ces divinités. Mais ils y ont joint dans la suite le culte de Vénus, céleste ou uranie, qu'ils ont emprunté les Assyriens et les Arabes. Les Assyriens donnent à Vénus le nom de Mithilita, les Arabes celui d'Alita, et les Perses l'appellent Mitra. Voici les rites qu'observent les Perses en sacrifiant au dieu dont je viens de parler. Quand ils veulent leur immoler des victimes, ils ne dressent point d'autel, n'allument point de feu, ne font pas de libation, et ne servent ni de flûte, ni de bandelette sacrée, ni d'orge mêlée avec du sel. Un Perse veut-il offrir un sacrifice à quelqu'un de ses dieux? Il conduit la victime dans un lieu pur, et, la tête couverte d'une tiare couronnée le plus ordinairement de myrte, il invoque le dieu. Il n'est pas permis à celui qui offre le sacrifice de faire des vœux pour lui seul en particulier. Il faut qu'il prie pour la prospérité du roi et celle de tous les Perses en général, car il est compris sous cette dénomination. Après qu'il a coupé la victime par morceaux et qu'il en a fait bouillir la chair, il étend de l'herbe la plus tendre et principalement du trèfle. Il pose sur cette herbe les morceaux de la victime et les y arrange. Quand il les a ainsi placés, un mage qui est là présent, car sans mage il n'aurait pas permis d'offrir un sacrifice, un mage, dis-je, entonne une théogonie. C'est le nom qu'il donne à ce chant. Peu après, celui qui a offert le sacrifice emporte les chairs de la victime et en dispose comme il juge à propos. Les Perses pensent devoir célébrer plus particulièrement le jour de leur naissance que tout autre, et qu'alors leur table doit être garnie d'un plus grand nombre de mets. Ce jour-là, les gens heureux se font servir un cheval, un chameau, un âne et un bœuf entier rôti au fourneau. Les pauvres se contentent de menu bétail. Les Perses mangent peu de viande, mais beaucoup de desserts qu'on apporte en petite quantité à la fois. C'est ce qui leur fait dire que les Grecs, en mangeant, cessent seulement d'avoir faim, parce qu'après le repas, on ne leur sert rien de bon, et que si on leur a servi, ils ne cesseraient pas de manger. Ils sont forts à donner au vin, et il ne leur est pas permis de vomir ni d'uriner devant le monde. Ils observent encore aujourd'hui ces usages. Ils ont coutume de délibérer sur les affaires les plus sérieuses, après avoir bu avec excès. Mais le lendemain, le maître de la maison où ils ont tenu conseil remet la même affaire sur le tapis avant que de boire. Si on l'approuve à jeun, elle passe. Sinon, on l'abandonne. Il en est de même des délibérations faites à jeun. On les examine de nouveau lorsqu'on a bu avec excès. Quand deux Perses se rencontrent dans les rues, on distingue s'ils sont de même condition car ils se saluent en se baisant à la bouche. Si l'un est d'une naissance un peu inférieure à l'autre, ils se baisent seulement à la joue. Et si la condition de l'un est forte au-dessous de celle de l'autre, l'inférieur se prosterne devant le supérieur. Les nations voisines sont celles qu'ils estiment le plus, toutefois après eux-mêmes. Celles qui les suivent occupent le second rang dans leur esprit. Et, réglant ainsi leur estime proportionnellement au degré d'éloignement, ils font le moins de cas des plus éloignés. Cela vient de ce que, se croyant en tout d'un mérite supérieur, ils pensent que le reste des hommes ne s'attache à la vertu que dans la proportion dont on vient de parler, et que ceux qui sont les plus éloignés d'eux sont les plus méchants. Sous l'empire des Mèdes, il y avait de la subordination entre les divers peuples. Les Mèdes les gouvernaient tout ensemble, aussi bien que leurs plus proches voisins. Ceux-ci commandaient à ceux qui étaient dans leur proximité et ces derniers à ceux qui les touchaient. Les Perses, dont l'empire et l'administration s'étendent au loin, ont aussi, dans la même proportion, des égards pour les peuples qui leur sont soumis. Les Perses sont les hommes les plus curieux des usages étrangers. Ils ont pris en effet l'habillement des Mèdes, s'imaginant qu'il est plus beau que le leur. Et dans la guerre, ils se servent de cuirasses à l'égyptienne. Ils se portent avec ardeur au plaisir de tout genre dont ils entendent parler, et ils ont emprunté des Grecs l'amour des garçons. Ils épousent chacun plusieurs jeunes vierges, mais ils ont encore un plus grand nombre de concubines. Après les vertus guerrières, ils regardent comme un grand mérite d'avoir beaucoup d'enfants. Le roi gratifie tous les ans ceux qui en ont le plus. C'est dans le grand nombre qu'il faut consister la force. Il commence à 5 ans à les instruire, et depuis cet âge jusqu'à 20, ils ne leur apprennent que 3 choses. À monter à cheval, à tirer de l'arc et à dire la vérité. Avant l'âge de 5 ans, un enfant ne se présente pas devant son père. Il reste entre les mains des femmes. Cela s'observe afin que, s'il meurt dans ce premier âge, sa perte ne cause aucun chagrin au père. Cette coutume me paraît louable. J'approuve aussi la loi qui ne permet à personne, pas même au roi, de faire mourir un homme pour un seul crime, ni à aucun Perse de punir un de ses esclaves d'une manière trop atroce pour une seule faute. Mais si, par un examen réfléchi, il se trouve que les fautes du domestique soient en plus grand nombre et plus considérables que ses services, son maître peut alors suivre les mouvements de sa colère. Ils assurent que jamais personne n'a tué ni son père ni sa mère, mais que, toutes les fois que de pareils crimes sont arrivés, on découvre nécessairement, après d'exactes recherches, que ces enfants étaient supposés ou adultérins. Car il est, continue-t-il, contre toute vraisemblance qu'un enfant tue les véritables auteurs de ces jours. Il ne leur est pas permis de parler des choses qu'il n'est pas permis de faire. Ils ne trouvent rien de si honteux que de mentir, et, après le mensonge, que de contracter des dettes. Et cela pour plusieurs raisons, mais surtout parce que, disent-ils, celui qui a des dettes ment nécessairement. Un citoyen affecté de la lèpre proprement dite, ou de l'espèce de lèpre appelée le C, ne peut entrer dans la ville ni avoir aucune communication avec le reste des Perses. C'est selon eux une preuve qu'il a péché contre le soleil. Tout étranger, attaqué de ses maladies, est chassé du pays. Et par la même raison, ils n'y veulent point s'offrir de pigeons blancs. Ils n'urinent ni ne crachent dans les rivières. Ils ne s'y lavent même pas les mains et ne permettent pas que personne y fasse rien de semblable, car ils rendent un culte au fleuve. Ils ont aussi quelque chose de singulier qu'ils ne connaissent pas eux-mêmes, mais qui ne nous a point échappé. Leurs noms, qui sont empruntés ou des qualités du corps ou de la dignité des personnes, se terminent par cette même lettre que les Doriens appellent San, et les Ioniens Sigma. Et si vous y faites attention, vous trouverez que les noms des Perses finissent tous de la même manière, sans en excepter un seul. Ces usages m'étant connus, je puis en parler d'une manière affirmative. Mais ceux qui se pratiquent relativement aux morts étant cachés, on ne peut rien dire de certain. Ils prétendent qu'on n'enterre point le corps d'un Perse qu'il n'ait été auparavant déchiré par un oiseau ou par un chien. Quant aux mages, j'ai la certitude qu'ils observent cette coutume car ils la pratiquent à la vue de tout le monde. Une autre chose que je puis assurer, c'est que les Perses enduisent de cire les corps morts et qu'ensuite ils les mettent en terre. Les mages diffèrent beaucoup des autres hommes et particulièrement des prêtres d'Égypte. Ceux-ci ont toujours les mains pures du sang des animaux et ne tuent que ceux qu'ils immolent aux dieux. Les mages, au contraire, tuent de leurs propres mains toutes sortes d'animaux à la réserve de l'homme et du chien. Ils se font même gloire de tuer également les fourmis, les serpents et autres animaux, tant reptiles que volatiles. Mais quant à cet usage, laissons-le tel qu'il a été originairement établi et reprenons le fil de notre narration. Les Lydiens n'eurent pas plutôt été subjugués par les Perses que les Ioniens et les Éoliens envoyèrent à Sardes des ambassadeurs à Cyrus pour le prier de les recevoir au nombre de ses sujets aux mêmes conditions qu'il l'avait été de Crésus. Ce prince répondit à leur proposition par cet apologue. Un joueur de flûte, leur dit-il, ayant aperçu des poissons dans la mer, joua de la flûte, s'imaginant qu'ils viendraient à terre. Se voyant trompé dans son attente, il prit un filet, enveloppa une grande quantité de poissons qu'il tira sur le bord, et, comme il les vit sauter, « Cessez, leur dit-il, cessez maintenant de danser, puisque vous n'avez pas voulu le faire au son de la flûte. » Il tint ce discours aux Ioniens et aux Éoliens, parce que, ayant fait auparavant solliciter les Ioniens par ses envoyés d'abandonner le parti de Crésus, il n'avait pu les y engager, et qu'il ne les voyait disposés à lui obéir que parce qu'il était venu à bout de toutes ses entreprises. Telle fut la réponse qu'il leur fit dans sa colère. Sur le rapport des députés, les Ioniens fortifièrent chacun leur ville et s'assemblèrent tous au Panionium, à la réserve des Milésiens, les seuls avec qui Cyrus fut traité aux mêmes conditions que celles qui leur avaient été accordées par Crésus. Dans ce conseil, il fut unanimement résolu d'envoyer demander du secours à Sparte. Ces Ioniens, à qui appartient aussi le Patinionium, ont bâti leur ville dans la contrée la plus agréable que je connaisse, soit pour la beauté du ciel, soit pour la température des saisons. En effet, les pays qui environnent l'Ionie, soit au-dessus, soit en dessous, à l'est ou à l'ouest, ne peuvent entrer en comparaison avec elle, les uns étant exposés aux pluies et au froid, les autres aux chaleurs et à la sécheresse. Ces Ioniens n'ont pas le même dialecte, leurs mots ont quatre sortes de terminaisons. Milet est la première de leur ville du côté du Midi, et ensuite Mionte et Prienne. Elles sont en Carie, et leur langage est le même. Éphèse, Colophon, Lébédos, Théos, Clazomène, Phocé sont en Lydie. Elles parlent entre elles une même langue, mais qui ne s'accorde en aucune manière avec celle des villes que je viens de nommer. Il y a encore trois autres villes ioniennes, dont deux sont dans les îles de Samos et de Chios. Et la troisième, qu'on appelle Érythre, est en terre ferme. Le langage de ceux de Chios et d'Érythre est le même, mais les Samiens ont eux seuls une langue particulière. Tels sont les quatre idiomes qui caractérisent l'Ionien. Parmi ces Ioniens, il n'y eut que les habitants de Milet qui, pour se mettre à couvert de tout danger, firent un traité avec Cyrus. Quant aux insulaires, ils n'avaient pour lors rien à craindre, les Phéniciens n'étant pas encore soumis aux Perses et ceux-ci n'ayant pas de marine. Les Milésiens, au reste, s'étaient séparés des autres Ioniens parce que, si tous les Grecs réunis étaient alors très faibles, les Ioniens l'étaient encore plus, et parce qu'ils ne jouissaient d'aucune sorte de considération. En effet, si l'on excepte Athènes, ils n'avaient pas une seule ville qui eût de la célébrité. Le reste des Ioniens et des Athéniens ne voulaient pas qu'on les appelât Ioniens, ce nom leur déplaisait, et même encore aujourd'hui, la plupart rougissent de le porter. Les 12 villes dont je viens de parler s'en faisaient l'honneur. Elles firent construire un temple, qu'elles appelèrent de leur nom Panionium, et prirent la résolution d'exclure des autres villes ioniennes. Il en est de même des Doriens de la Pentapole, pays qui s'appelait auparavant Hexapole. Ils se gardaient bien d'admettre au temple trioptique aucun Dorien de leur voisinage. Et même s'il est arrivé à quelqu'un d'entre eux de violer les lois de ce temple, ils en ont exclu. En voici un exemple. Dans les jeux qui se célèbrent en l'honneur d'Apollon Triopien, on proposait autrefois des trépieds d'airain pour les vainqueurs. Mais il ne leur était pas permis de les emporter du temple. Il fallait les y consacrer aux dieux. Un habitant d'Halicarnasse nommé Agasiclès, ayant obtenu le prix à ces jeux, emporta, au mépris de cette loi, le trépied dans sa maison et l'y appendit. Les 5 villes doriennes, Lynde, Lalissos, Camiros, Kos et Cnide, punirent Halicarnasse, qui était la 6e, en l'excluant de leur association. Les Ioniens se sont, je crois, partagés en 12 cantons et ne veulent pas admettre un plus grand nombre dans leur confédération parce que, dans le temps qu'ils habitaient le Péloponnèse, ils étaient divisés en 12 parties. De même que le sont encore maintenant les Achéens qui les en ont chassés. Pelène est la première ville des Achéens du côté de Sicyone. L'on trouve ensuite Aegir, Aegès, que traverse le Cratis qui n'est jamais à sec et qui a donné son nom à une rivière d'Italie. On voit après Bure, Élis, où les Ioniens se sont réfugiés après avoir été défaits par les Achéens. Viennent ensuite Aegium, Rhipe, Patres, Pharès et Olenus, qui arrosent le Pyrrhus, rivière considérable. Les deux dernières enfin sont Dîmes et la ville des Tritéens, la seule qui soit située au milieu des terres. Ces 12 cantons, qui sont aujourd'hui aux Achéens, appartenaient alors aux Ioniens et ce fut cette raison qui engagea ceux-ci à se bâtir 12 villes en Asie. Ce serait une insigne folie de dire que ces Ioniens sont plus distingués ou d'une naissance plus illustre que le reste des Ioniens, car les Abantes de l'Eubée en font une partie assez considérable. Et cependant, ces peuples n'ont rien de commun avec les habitants de l'Ionie, pas même le nom. Ces Ioniens sont un mélange de Miniens orchoméniens, de Cadméens, de Dryopes, d'une portion de Phocidiens, de Molosses, d'Arcadiens Pélasges, de Doriens Épidoriens et de plusieurs autres nations. Ceux d'entre ces peuples qui sortirent autrefois du Prytané des Athéniens s'estiment les plus nobles et les plus illustres des Ioniens. Lorsqu'ils allèrent fonder cette colonie, ils ne menèrent point de femmes avec eux, mais ils épousèrent des Cariennes dont ils avaient tué les pères. Ces femmes, furieuses du massacre de leurs pères, de leurs maris et de leurs enfants, et de ceux qu'après une telle action ils les avaient épousés, s'imposèrent la loi de ne jamais prendre leur repas avec leurs maris et de ne jamais leur donner ce nom. Loi qu'elles firent servant d'observer et qu'elles transmirent à leurs filles. Ce fut à Milet que cela se passa. Ces Ioniens élurent pour roi les uns des Lyciens issus de Glaucus, fils d'Hippolochus, les autres des Cocons, Pyliens, qui descendaient de Codrus, fils de Mélantrus. D'autres, enfin, en prirent de l'une et de l'autre de ces deux maisons. Mais on me dira sans doute que ces Ioniens sont plus attachés à ce nom d'Ionien que le reste de la nation. Qu'ils soient aussi les purs, les véritables Ioniens, j'y consens. Cependant, tous ceux qui sont originaires d'Athènes et qui célèbrent la fête des Apaturies sont aussi Ioniens. Or, ils la célèbrent tous, excepté les Éphésiens et les Colophoniens qui en ont été exclus à cause d'un meurtre. Le Panionium est un lieu sacré du mont Mycale que les Ioniens ont dédié en commun à Neptune héliconien. Il regarde le septentrion. Mycale est un promontoire du continent, lequel s'étend à l'ouest vers Samos. Les Ioniens s'y assemblaient de toutes leurs villes pour célébrer leur fête qu'il appelait Panionie. Les fêtes des Ioniens ne sont pas les seules qui se terminent par la même lettre. Elles ont cela de commun avec celles de tous les Grecs et avec les noms propres des Perses. Voilà ce que j'avais à dire concernant les villes des Ioniens. Celles des Éoliens sont Cyme, qu'on appelle aussi Friconis, Laris, Neonticos, Temnos, Scylla, Notium, Aegirusa, Pitane, Égée, Myrine, Grinia. Ce sont là les 11 anciennes villes des Éoliens. Ils en avaient 12 aussi sur le continent, mais les Ioniens leur enlevèrent Smyrne. Le pays de ces Éoliens est meilleur que celui des Ioniens, mais quant à la température des saisons, il n'en approche pas.